merci à vous d'être présent à ces imaginales. Donc une rencontre avec Hélène Kœchner, un bavardage comme on aime parfois le faire avec nos invités, pour mieux connaître une œuvre, mieux connaître une voix et mieux connaître un auteur. Donc pourquoi on a invité Hélène Kœchner? Tout simplement parce qu'on a lu déjà deux de ses ouvrages traduits en français, Thomas le Rimeur et À la pointe de l'épée, deux ouvrages d'ailleurs très différents, ce qui m'amènera sans doute à poser assez rapidement une première question à Hélène Kœchner. Et puis aussi parce qu'elle a une voix originale dans la fantaisie américaine, peut-être aussi parce que avant peut-être des gens comme N.K. Jemisin, la nouvelle génération américaine qui ont aussi ce type de discours, c'est une femme qu'on peut qualifier, elle refusera pas le terme, je pense, de féministe. En tout cas, on verra aussi cet aspect de sa littérature. Et par ailleurs, d'autres questions qu'on aura l'occasion d'aborder, en particulier sur À la pointe de l'épée, sur comment un écrivain injecte-t-il aussi dans sa fiction ce qu'il est, quelque part, parce qu'on n'écrit pas, même si on écrit pour les autres et qu'on fait de la fiction, on n'écrit pas indépendamment de ce qu'on est comme personne humaine. Donc, bienvenue Hélène Kœchner au Festival des Imaginales. On va avoir l'occasion pendant 4 jours de se connaître mieux et de mieux connaître votre œuvre, parce que c'est évidemment pour ça que nos festivaliers sont venus vous rencontrer. Thomas le Rimeur, un premier roman qui fonctionne beaucoup plus comme un conte et une ballade. À la pointe de l'épée, un roman, même si il est extrêmement riche, qui est, je dirais, plus classique par rapport au premier. On va donc étudier ces deux livres. Pourquoi déjà vous avez un petit peu une œuvre polyphonique? Parce qu'on a des auteurs qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qu'on identifie tout de suite à une façon de faire, à une thématique, à une façon de raconter. Et pour le moment, vous n'avez que 2 livres traduits en France, mais sur ces 2 livres, tout de suite, je vois, c'est pas le même ton, c'est pas la même façon d'écrire. Est-ce qu'ils ont été écrits déjà à beaucoup de distance?
Non, pas du tout. Ça, c'est... Allô, allô?
Oui, ça marche.
Ok. Ça, c'est entièrement à moi. J'ai choisi de faire ça. Quand j'ai mon premier roman, c'était À la pointe de l'épée. Et ça faisait beaucoup de travail pour moi et beaucoup de plaisir. Je vais dire en anglais, it was like a piece of wood that I polished over and over again until it was very smooth to the touch.
En fait, c'était comme un morceau de bois que j'aurais poli au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il devienne complètement doux au toucher.
C'est ça. Alors, et à ce moment, vous voyez, il y a plus que 20 ans déjà, j'avais grande peur de me répéter, de faire la même chose. C'était les temps différents, une époque différente dans la fantasy. Pour faire beaucoup de... pour faire une série, c'était un peu... pas très littéraire, un peu trop commercial. Maintenant, c'est presque rien que séries, avec nos meilleurs auteurs qui font des séries. Mais en ce cas, j'avais peur de faire une série, j'avais peur de m'imiter moi-même. Donc j'ai dit, la prochaine roman que je ferai, ça serait quelque chose de très, très différent. Et bon, c'est fait. Lequel est le vrai Hélène Kœchner? Pas de réponse, ce sont tous les choses de moi. Mais je les ai écrits très très proches de l'un de l'autre. Alors c'est pas une question de temps. Et si je dis quelque chose qui est absolument bête en français, tu peux le traduire, mais... Tu peux le traduire en vrai français.
J'aimerais déjà bien parler anglais aussi facilement que Hélène parle le français. Merci en tout cas de parler, de maîtriser notre langue comme ça. C'est pas si fréquent, entre autres, d'auteurs américains. Et ça nous touche en plus. Ça nous fait plaisir de voir un auteur américain. Nous qui avons tant d'admiration pour une grande partie de la culture, en tout cas le meilleur de la culture américaine, de voir qu'il y a aussi des auteurs américains qui s'intéressent à la nôtre.
Mais je ne m'intéresse pas trop, mais c'est une question d'élevage. Bon, quand j'avais 7 ans, ma famille a demeuré près de Paris, dans la ville de Sceaux. Donc, je n'avais pas de choix. Je suis devenue française pour 1 an. Mais on dirait en anglais, it's stuck.
Ça m'est resté.
C'est ça.
En tout cas, c'est bien agréable pour nous. Thomas le Rimeur, Hélène Kœchner, roman publié chez Gallimard dans la collection, l'excellente collection, on va le dire, Folio SF. même si c'est de la fantaisie, mais le sigle en fait. Moi, je ne suis pas un conteur d'histoire, un vrai comme le rimeur. J'ai pas sa voix de velours, ni sa langue bien pendue. Je connais quelques airs, comme tout le monde. Je connais bien quelques airs, comme tout le monde, mais ils n'ont rien à voir avec les siens. C'est pas à moi qu'il faut demander les chansons dans lesquelles d'aimables filles franchissent à gué cette rivière par amour pour un perfide, de ces ritournelles si douces amères qu'elles tirent les larmes aux vieux soldats les mieux aiguerris. Non, plus que des refrains joyeux ou des ladres cousus d'or se font soulager de leurs biens à la faveur d'une parole prise à rebours ou d'une plaisanterie si bien tournée qu'un vieux grigou d'oncle qui a fait main basse sur un douair peut quand même en rire sans prendre ombrage. Ma foi, c'est un pouvoir pour sûr, cette musique et ces paroles, et moi, je l'ai pas, c'est clair. Cela dit, je ne suis pas sûr que j'en voudrais de ce pouvoir, même si on me l'offrait. Un des récits de Tom, justement, a pour héros Jock of the North, qui rentrait chez lui de la foire de Mellerstein avec une figure longue d'une aune, vu qu'il avait fait tout ce chemin avec sa vieille vache courte corne pour la vendre, mais que personne n'en avait voulu. Alors, voilà mon Jock qui s'en revient chez sa bonne femme, sans plus d'argent que d'emplettes, et l'hiver qui sera bientôt là. Tout en suivant la route de Mellerstein avec sa vache, il se met à pester contre elle, comme qui dirait en colère. « Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour être débarrassé de toi, pour avoir quelques pièces de bon argent dans ma bourse ?» Au même instant, il voit sur le bord de la route un homme enveloppé dans un manteau. Et l'homme lui dit « Bonsoir à toi, Jock of the Cove. Il est comment le lait de ta vache, courte corne ?» Prenant l'inconnu pour un gars de la foire, Jock répond « Mais voyons, cette vache-là, elle donne un lait mi-crème, mi-miel. Si elle en donne un seau le matin, le soir, elle en donnera deux. » Là-dessus, ils se mettent à marchander l'animal. Jock se dit qu'un homme qui court les routes après la foire en quête d'une vache doit en avoir un rude besoin. Alors il demande un bon prix. Tout à coup, l'inconnu, un homme de haute taille, lance « Écoute donc, l'argent c'est bel et bon, mais je peux t'offrir quelque chose qui vaut deux fois plus, vache comprise. » Et dessous son manteau, il sort un violon. Jock lui dit qu'il ne sait même pas en jouer, mais l'étranger répond « Ça ne fait rien, c'est le violon qui jouera pour toi. » À ces mots, Jock comprend que cet homme du crépuscule doit appartenir à la race des elfes et qu'ils ont besoin du lait de la vache pour nourrir un petit homme qu'ils ont volé. Dans ce cas, lors des fées, s'il l'accepte, peut très bien se transformer en herbe et en feuilles dès le lendemain, tandis qu'un violon magique, c'est un violon magique. Où qu'on aille, les gens sont toujours prêts à payer une jolie somme pour un peu de musique. Alors il dit « Je prends le violon ». Voilà, on est rentré dans le roman, les premières pages, il y a des elfes. On parle d'un personnage, Thomas le Rimeur, et puis visiblement, moi qui n'ai pas cette culture-là, vous êtes inspiré de contes traditionnels. Oui. Alors dites-nous en plus, Hélène Kachner.
De quoi? C'est vous qui l'avez bien, très bien exprimé déjà.
Ben justement, pourquoi vous êtes allé pour écrire un roman de fantasy, chercher des contes traditionnels? Qu'est-ce qui vous a... est-ce que c'était un défi que vous vous étiez fixé? Est-ce que vous aviez envie de partir justement d'une source historique, de la tradition du conte, pour donner une forme d'écriture? Qu'est-ce qu'il y a?
Voilà. L'origine de ça, j'avais peut-être 15 ans et j'étais ravie des ballades traditionnelles. Des chansons et des contes, la poésie qui est toujours dans les collections de poésie anglaise entre Chaucer et Shakespeare, il y a Anonymous, anonyme. Et puis ce sont toutes les contes comme celle de Thomas qui existent là dans les livres de poésie. Donc j'étais ravie, surtout de l'histoire de Thomas le Rimeur. Et je disais un jour je veux écrire une vraie histoire, un roman peut-être de Thomas. Donc, quand je grandissais, je l'ai fait. C'est très simple.
Là aussi, si on le compare, on parlera de à la pointe de l'épée tout à l'heure. Thomas le Rimeur, c'est un roman où, en fait, on raconte ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, contrairement à beaucoup de romans où il y a des dialogues, de l'action, des rebondissements, etc., là, c'est très étrange. J'avoue que j'ai été au départ désarçonné par votre roman. Pourtant, j'ai l'habitude d'en lire beaucoup. Je suis rentré dedans quelques lignes, j'ai refermé le livre deux, trois fois, et puis je me suis dit, il faut que je le lise, puisque Hélène Kachner nous vient. J'avais commencé par À la pointe de l'épée, hein, tout simplement, par hasard. Et puis, je suis rentré dans le roman, et une fois que je suis rentré dans le roman, j'ai tourné à la page suivante, et ainsi de suite. Et quelque part, il y a une sorte de magie qui fait que, bien que ça soit un roman atypique de fantasy, on continue à le lire. Pourquoi vous avez fait ce choix d'un roman, justement, très atypique dans la production?
C'était à cause de Deadline.
C'est à cause du délai de remise, en fait, de la date butoir.
Il fallait que j'ai écrit quelque chose, cet roman, très très vite pour mon éditeur. Et je disais, comment pourrais-je le faire pour que ça soit très très... Ça soit fait très vite. Et pour moi, c'est très facile d'entrer dans l'esprit, bien le mind.
Oui, dans la pensée.
Dans la pensée d'une autre personne. C'est un peu comme des jeux de théâtre pour moi. Donc, j'ai pensé à des caractères, puis j'ai écrit en leur voix même. Et ça marchait très, très bien et très, très vite. Ça, donc, c'était pour moi que c'était une question de craft, on dirait en anglais.
Savoir-faire.
The artisan. Comment être artisan de romans. C'est un choix artisanal. Bon.
Artisanal, oui, d'accord.
Mais, et ça m'appelait, il y a beaucoup des gens qui n'aiment pas écrire dans ce voix, un voix de quelqu'un. Et aussi, Delia, elle dit, mon épouse, elle dit toujours que j'ai le subconscious, c'est quoi?
Le subconscient.
Le subconscient très, très intelligent. Donc, c'est-à-dire que si on est critique littéraire, peut-être comme vous, on verra que... En prenant ces voix, ce sont des voix des gens qui racontent des histoires un peu traditionnelles eux-mêmes. Et chacun a le voix d'une histoire un peu différente. Dans cette grande histoire, des histoires. Et je crois que c'est peut-être que ce qui vous a plu et la raison que vous reveniez et reveniez, c'est que c'est comme quelqu'un qui vraiment parle à toi, au lecteur. Ah, vous, pardon. Au lecteur. Et c'est pour ça qu'on veut que l'histoire continue. C'est comme que peut-être on est assise par le feu avec la grand-mère ou avec la nourrice ou bien dans le lit, on raconte une histoire. Mais c'est au lecteur de me dire si c'est vrai ou non.
On lui a donné un habit de fin tissu, une paire de souliers en velours vert. Et tant que la septième année ne fut pas révolue, sur Terre, on ne revit plus Thomas le Sincère. Chanson traditionnelle, Chai Ballade, numéro 37.
Et je peux le chanter.
Vraiment ?
Oui, oui. C'est très intéressant que la petite passage que vous avez choisie au début, c'est la même que je lis. Moi, je fais une petite pièce pour moi-même et un musicien qui joue le violon. Et nous faisons cette pièce pour c'est une heure et demie. Et je lis et je chante les chansons qui ont inspiré le nouvel ou bien aussi le chanson de Thomas lui-même que vous veniez de lire. Alors le voilà, c'est une chanson, c'est vrai, c'est traditionnel. Je l'ai volé.
Deuxième extrait. J'aime pas laisser deviner que j'ai plus l'oreille aussi fine que jadis, mais n'empêche que c'est vrai. Cela dit, il y a bien d'autres moyens de se tenir au fait de ce qui se passe, et ces moyens-là, je les connais, croyez-moi. En voyant sursauter notre vieux chien près du feu, méfiant mais pas inquiet, j'ai compris qu'un ami était à la porte juste avant que l'arrivant se mette à frapper assez fort pour que je l'entende. Aussi vite que j'ai pu, j'ai essuyé mes mains pleines de farine et je suis allé ôter la barre qui fermait la porte. Il y a eu des malandrins de par chez nous ces temps derniers, si bien qu'on n'est jamais trop prudent. Ensuite, j'ai tiré le verrou et j'ai vu devant moi quelqu'un que je ne pensais pas revoir un jour, notre Thomas le rimeur, vêtu de velours vert comme un prince, se tenait à ma porte, plus gaillard que jamais. J'en ai eu les larmes aux yeux, vieille godiche que je suis. Tom, que j'ai dit, « Oh Tom, on croyait tous que t'étais mort !» Sans un mot, il m'a ouvert ses bras. J'avais oublié qu'il était si grand. Contre ma joue, le velours vert dégageait un parfum de plante que j'aurais pas su nommer. Et dessous se trouvait un corps bien chaud, bien vivant, et un cœur qui battait la chamade. J'ai fini par m'écarter, mais lui a continué de me tenir à bout de bras et de me dévorer des yeux. Et moi, je peux vous dire que j'étais pas en reste. Il avait l'air curieusement ébloui, ou pour mieux dire détaché du monde, malgré son riche costume. Et puis Thomas, cette vivante source de fausses nouvelles et de mauvaises excuses, avait pas prononcé un mot depuis son arrivée. Il se contentait de me tenir et de m'inspecter sous toutes les coutures, comme si j'étais une petite mioche qu'on vient d'habiller pour aller à l'église ou un splendide récipient destiné à un roi. Sachant pertinemment que j'avais le visage blanc de farine, les cheveux en bataille, et sur le dos, un sarreau reprisé dans tous les coins. Je me suis demandé pourquoi. Mec, qu'il a fini par lancer tout à trac. Que vous donc, vous êtes belle. Je te reconnais bien là, tu disparais dans les collines sans un mot d'adieu pendant des années, et tu crois qu'il suffira de quelques flatteries pour entrer dans mes bonnes grâces ? Mais il a continué de me dévisager d'un air ravi, comme s'il contemplait une des merveilles du monde. Oh ça, faut dire que je suis d'une beauté rare, que j'ai plaisanté dans l'espoir de lui ôter un peu de cet air étrange et avide que je lisais sur son visage. Peut-être que je devrais me poudrer encore un peu plus le bout du nez. C'est-il donc la mode aujourd'hui ? Mais ces mots ont paru le déconstancer, le pauvre petit. « Allons, j'ai repris un peu radouci. » Il était plus atteint qu'aurait pu le laisser croire son aspect cossu bien nourri. Ce que j'en disais, c'est pour te taquiner. Vous imaginez un peu notre rimeur à court de réponses effrontées. La vérité, c'est que je suis en train de faire bon pain aujourd'hui. C'est que du pain d'avoine. J'ai commencé à craindre de ne pouvoir m'arrêter de babiller. Il était si étrangement silencieux, si hébété, si affamé. Pour la première fois, je me suis demandé si je n'avais pas affaire à un esprit, un envoyé de l'ennemi. Toujours ce même ton, tout au long du livre, où on a des personnages qui racontent des aventures qui sont arrivées et qui parlent d'autres personnages. On a une sorte de construction en enchâssement, en structure, en emboîtement. Là aussi, c'est fidèle au conte ou c'est un choix de narration, Hélène Kochner ?
Non, la conte, ça existe seulement des aventures de Thomas, Meg, j'ai inventé. Tous les autres caractères, sauf Thomas et la reine des elfes, ce sont à moi. Comme si ça, c'est traditionnel, si je comprends bien, c'est que dans les histoires traditionnelles, oui, souvent on raconte quelque chose qui est puis est raconté lui-même, si c'est ça que je comprends bien. Oui, ouais. Je crois que c'est traditionnel. Mais pour moi, c'est une question de presque de chant. C'est que je connais bien la forme. Ce n'est pas quelque chose de très conscieuse. Je suis le sens de tradition. Puis, si j'ai réussi, pensez bien.
On va passer au deuxième roman, à La Pointe de l'épée. Un roman très différent, un roman d'action, un tueur à gages. Ça nous rappelle, nous, Français, quelque chose, Jean-Philippe Jaworski, avec son tueur à gages, hein, qui a eu le prix Imaginal en 2009. Là, c'est très différent. Richard Saint-Vierre, le plus fameux, dit la quatrième de couverture, des tueurs de Bordeaux, le quartier des pickpockets et des prostituées. Pourquoi vous avez choisi pour ce roman de fantasy, d'action, un tueur à gages qui est à mi-chemin entre l'odieux et le séducteur.
Le dieu ?
L'odieux, affreux ou séducteur, horrible ou séducteur.
Je sais pas. Cela m'intéressait. C'est mon caractère. J'ai pas fait le choix. C'est lui qui m'est apparu. Je disais bonjour monsieur, bon, allons en voyage.
Eh bien, on va voir quel voyage nous propose Hélène Kochner. La neige qui tombait le gênait pour voir. Le combat ne l'avait pas sérieusement essoufflé, mais il avait chaud, il transpirait, il sentait son cœur tambouriner dans sa poitrine. Il l'ignora pour prendre la direction des Bordeaux où personne ne risquait de le suivre. Il aurait pu rester sur place s'il l'avait souhaité. Le duel avait été très impressionnant et les invités de la réception avaient eu droit à un beau spectacle. On parlerait plusieurs semaines durant de la fête dans le jardin d'hiver et de son issue. Mais s'il s'attardait, le bretteur savait qu'on lui proposerait du vin et de riches pâtisseries et qu'on lui poserait des questions fastidieuses sur sa technique et délicates sur la personne qui avait commandité le duel. Il continua sa course. Sous la cape, il avait la chemise éclaboussée de sang, et le guet exigerait qu'il expliquât sa présence sur la colline à 7 heures. Ils avaient le droit de savoir, mais sa profession lui interdisait de répondre. Aussi tourna-t-il au coin des rues et reprit-il son souffle sur des pas de porte, jusqu'à ce qu'il eût laissé derrière lui les splendeurs de la colline dans sa traversée vers la basse ville. L'aube commençait à poindre lorsqu'il atteignit le fleuve, qui roulait sous le pont, un flot d'un vert boueux. Personne ne l'y attendait pour le héler. Il posa donc le pied sur la chaussée, se faufilant entre les monticules de neige. perdu le fil. Et le sillage brouillé d'autres tardifs travailleurs nocturnes passaient avant lui pour placer enfin le fleuve en garantie entre lui et le reste de la ville. Il se trouvait désormais dans les Bordeaux où le guet n'osait jamais mettre les pieds. Ici, les gens le connaissaient et ne le chercheraient pas de noises. Alors, on a un personnage qui est un tueur à gages dans une société qui, quelque part, le tolère, puisque ce n'est pas un tueur à gages secret. C'est un tueur à gages que l'on connaît, qui est réputé. Pourquoi vous avez cette idée quand même un peu bizarre d'avoir un tueur à gages d'une société qui l'accepte ? Pourquoi on construit ? Comment on construit une société où l'homme qui est chargé des exécutions, qui est payé pour ce travail, en quelque sorte, il est connu sans que cette société ne disjoncte, ne dysfonctionne ? Comment une société peut-elle fonctionner ? Et dans le livre, elle fonctionne avec un tueur que chacun connaît.
Ok, alors, je vais parler en anglais. I'm going to back up for a moment and okay. Answer your first question because I have a better answer for it.
Donc, je vais repasser à l'anglais pendant un petit moment et répondre plutôt à la première question tout d'abord parce que là, c'est assez. La réponse est très évidente.
Non, pas très évident, mais.
Sorry.
I have a better answer.
Oui, voilà, parce que j'ai une meilleure réponse. Voilà.
Okay. Which is that it's really the way that I see the world. Vous me demandez... I cannot do this, I'm sorry.
C'est vraiment la façon dont je vois le monde.
Which is to say that I don't really see people as being either completely good or completely bad.
Et je ne vois pas vraiment les gens comme étant soit complètement bons, soit complètement mauvais.
So, even though traditionally in fantasy you have this, perfect good or perfect bad, it was just not when I wanted to write fantasy like Tolkien because that's what I loved when I was younger. In the end, I couldn't do it. It just wasn't in me.
Donc, en fait, dans la fantasy, on a en général ces personnages, le personnage du bon, le personnage du méchant, qui sont très marqués. Et moi, j'avais très envie d'écrire de la fantasy à la manière de Tolkien, parce que c'est quelque chose que j'adore, et j'ai réalisé que je ne pouvais pas le faire, parce que ce n'était pas ma façon de voir.
Et c'est pas que quand j'ai commencé à la Pointe de l'Épée, j'ai essayé de écrire comme Tolkien, et j'ai failed.
Et j'ai échoué.
Non, au contraire, c'est que quand je suivis mes idées, mes personnages, tout ça, ils n'étaient pas ceux de Tolkien du tout. Ça y est. Mm. C'est clair? C'est vraiment une réponse. Alors.
Ouais, tout à fait.
Alors, pour la société, je ne sais pas comment je l'ai fait, mais je crois que ce n'est pas trop bizarre, car... ce n'est qu'une extension, I can't even think of the word in English, sorry. Extrapolation.
Une extrapolation.
Ah bon, extrapolation de ce qui existait vraiment anciennement. C'est que quand c'était une question d'honneur ou bien une question de colère ou les deux, que les gens faisaient des duels. Donc, ce qui est différent à la Pointe de l'Épée, c'est qu'ils étaient trop... j'ai une bonne petite histoire pour pourquoi, mais les aristos même ne faisaient pas leur duel même. Ils payaient quelqu'un d'autre pour les faire. Et c'est très bête qu'il est tueur à gages et il fait ce qu'il veut. Il a des très, très, très... des lois et des coutumes très rigides... dans lesquels il peut fonctionner.
Personnage avec des côtés antipathiques, mais personnage aussi qui a, comme tout un chacun, sa vie privée. En dépit de tous les tours que savait déployer Alec avec sa voix, il n'avait jamais compris combien le bretteur pouvait aisément lire son corps. Celui-ci se raidit soudain, bien que la voix d'Alec continuât à discourir. « Mais c'est charmant !» Ne trouves-tu pas agréable de savoir, Richard, que tu n'es pas le seul à avoir succombé au prestige du bateau cygne ? Je n'ai pas succombé, dit Richard, confortablement. Alec avait dû reconnaître le noble. Mais je ne refuserai pas une croisière à bord de ce bateau. Seulement, ils doivent commencer par nommer leur cible. Si le travail me plaît, je succomberai à l'argent. Tu crois ?
Je crois.
Alec laissa échapper un sourire velouté, tandis que Richard cherchait le plaisir du jeune homme, prenant toujours garde à ne pas le surprendre par un geste soudain ou inattendu. Parfois, cette recherche évoquait la façon dont on traque un gibier, ou dont on attire jusqu'à sa main un animal sauvage. Alex cessa de parler, laissa ses paupières retomber finement sur ses yeux brillants, et Richard eut l'impression que ce corps devenait pareil au flot des eaux, comme s'il retenait entre ses bras la puissance d'un fleuve. Quand ils s'embrassèrent, les bras d'Alec vinrent se serrer autour des épaules de Richard. Puis ils commencèrent à aller et venir de haut en bas sur le corps du bretteur, comme s'ils cherchaient quelque chose, s'ils essayaient de puiser quelque chose dans les muscles tendus de son dos et de ses cuisses. « Ah !» dit Alec, le contentement se mêlant à la surprise. « Que tu es beau !» Scène d'amour, scène qui pourrait être relativement banale, mais on est, lorsque vous publiez le roman aux États-Unis, même s'il est paru beaucoup plus tard en France, en 1987. Parler aussi librement dans un roman de rapport homosexuel entre deux garçons ici, c'était peut-être pas évident en 1987. En tout cas, en France, ça ne l'était pas. Ça l'était aux États-Unis ?
Quelques petites fois, oui, mais pas trop, pas trop. Il y avait Marion Zimmer Bradley qui le faisait, je crois. Oui, 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 elle le faisait déjà. Puis, qui d'autre ? Diane Duane a écrit des petits romans de fantasy aussi avec les deux hommes. Et il y avait aussi le slash. Vous connaissez le mot le slash ici ? Comme, c'est le fanfiction. Vous connaissez ça ? Oui. Et ça, mais ça existait souterrainé et moi, je ne le connais pas. Donc, j'ai écrit ça et je me demandais qu'est-ce que j'ai fait alors. Mais ça me plaisait, alors ça, c'est tout. Et après ça, j'ai entendu du fanfiction, du slash, c'est-à-dire des hommes bien connus sur la télé ou quoi donc. Mais c'est un peu la même impulse.
Impulsion,
voilà. Je ne sais pas pourquoi. Bon, mais quand même, vous avez déjà, je crois, l'impression, la vraie impression que je suis... strong-willed.
J'ai une forte personnalité.
Une forte personnalité, une forte volonté. Donc, je l'ai fait parce que je voulais. Et puis, je l'ai présenté au monde et le monde était un peu confus, mais enfin, c'était publié. Et ça confusait beaucoup de gens, mais ce qui leur confusait, c'est bon. C'était qu'ils aimaient bien ces personnages. Ils aimaient bien le livre. Ils disaient, mais moi, je n'aime pas les homos, quoi. Mais j'aime ce livre, j'aime cette gens. Alors, c'est pour ça que je crois que j'ai bien fait mon œuvre.
Oui, ça a surpris dans ce cas-là. C'est plutôt surpris.
Surpris, bon.
Oui, donc vous l'avez fait délibérément parce que vous pensiez que dans la littérature, d'abord, on doit s'exprimer, j'imagine, librement. Je pense que c'est votre point de vue. Mais aussi parce que vous pensiez que c'était nécessaire de le faire à une certaine époque.
I'm not sure I understood the question. Aucune idée. Non, non. Ce n'était pas pour quelque chose de politique. Non, point du tout. Non, c'était ma volonté.
Finalement, vous écrivez comme vous avez envie d'écrire.
Oui, c'est ça. Maintenant, après ça, oui. Après ça que oui. Quand j'ai vu comment le monde a confronté ce livre, j'ai pensé, peut-être il faut faire encore des choses. Donc, quelques ans après, j'ai écrit ça, qu'il s'agit d'une jeune fille qui est la nièce d'Alec dans le livre. Et Alec et Richard et tous ses amis reparaissent, mais plus âgés. Et c'était très intentionnel que j'écrive quelque chose sur la même société et les mêmes gens, mais avec une fille. C'est encore plus féministe en ce cas. Je suis désolée que ce n'est pas encore traduit en français, mais j'ai quelques petits livres avec moi, si on lit l'anglais.
Oui, justement, je pense qu'on a bien compris que vous n'étiez pas un écrivain à message, que vous n'étiez pas là pour confondre la littérature. Mais néanmoins, votre façon d'être, vous avez dit tout à l'heure, pour ça que ce n'est pas évidemment un secret, vous avez dit en parlant de Delia Sherman, mon épouse. Et je pense qu'il y a des gens qui ont pensé que c'était votre français. Non, c'est qui ont dû rectifier inconsciemment en pensant, elle a dit épouse, mais c'était votre époux. Non, vous êtes marié à une femme parce qu'à New York, aux États-Unis, à un moment donné, ça a été possible.
Heureusement, nous habitions à Massachusetts et ça devenait légal. Et bon, on le fait. Et avant de ça, peut-être presque 10 ans avant de ça, nous nous sommes mariés illégalement avec une fête énorme. Il y avait peut-être 250 de nos amis et familles. C'était super. Mais encore, c'est que ça me plaît. C'est pas grand-chose.
C'est pas une posture, c'est pas une revendication, c'est juste vous êtes, c'est votre façon d'être, c'est votre façon de vivre, et c'est naturel.
Malheureusement, ouais. Pas malheureusement que je suis avec Télia, ça me donne beaucoup de plaisir. Bonjour chérie. Malheureusement que je suis tellement arrogante.
Non, je le dis parce que je me souviens qu'il y a une vingtaine d'années, quand un des écrivains qui est un habitué du festival, Francis Berthelot, avait écrit un roman de science-fiction, son premier roman, où il y avait des personnages gays et y compris une scène de rapport sexuel homo. Et ça avait profondément choqué le milieu de la science-fiction française. Je m'en rappelle, hein, j'étais
toute jeune critique. C'était choquant, ce roman ?
Non, pas du tout. Non. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'il serait lu de façon... je pense qu'aujourd'hui, il ne poserait de problème à pas grand monde. Et à l'époque, ça avait beaucoup bougé le lectorat. Tout le monde avait reconnu le talent, il a eu un prix. Mais ça avait dérangé. Il m'a dit, mais pourquoi tu as mis cette scène-là ? Et je crois qu'il avait répondu à ce débat... Et parce que, comme tout le monde, les gens font l'amour, les gens s'aiment.
Il faut vous dire que ce qui était choquant, le plus choquant, quand ça apparaît aux États-Unis, ce n'était pas que c'était deux hommes. Presque personne ne voulait dire que c'est deux hommes. Mais c'est toujours dans les revues, mais pas comme grande chose, qui m'amusait beaucoup, beaucoup. Car je crois que... Ils veulent être très sophistiqués. Bon, c'est pas grand-chose, deux hommes. Bon, c'est pas grand-chose. C'était qu'il n'y avait pas de magie dans un roman de fantasy. Ça, c'était choquant et très, très discuté. D'accord. C'est marrant, hein?
Justement, c'est un roman que je rapprocherais plus du roman historique, d'une certaine façon. Je pense à une de vos collègues qui parlait d'un roman historique dans une société qui n'a jamais existé. La fantaisie, votre fantaisie, en tout cas, il n'y a pas de magie dedans. Contrairement à Dick Canavan, par exemple, qui en met énormément. Pourquoi c'est un thème qui ne vous intéresse pas dans la fantaisie, pour votre écriture? Je ne dis pas comme lectrice, mais pour votre écriture.
I wish I knew.
J'aimerais bien le savoir.
Je ne sais pas. Car j'adore... lire des choses comme ça, mais quand j'écris... Thomas, c'est marrant, peut-être que ce sont les deux côtés de moi, car il n'y a presque pas de musique en ça. Il y a beaucoup de théâtre dans le monde, on dirait le monde Bordeaux, le Bordeaux, c'est Riverside en anglais. Il y a beaucoup de théâtre et presque pas de musique. Mais moi, je suis un peu musicien, je faisais des émissions de radio, de musique, donc c'est Thomas qui a toute ma musique et toute ma magie aussi. C'est plein de magie, de vraie magie. Je sais pas. J'aime bien la magie, c'est une force énorme. Mais je crois qu'il faut faire ce qu'on fait le meilleur, et pour moi, c'est ça. Peut-être, j'espère.
Autre petit extrait. Quand Michael ne rêvait pas des yeux glacés de la duchesse, il imaginait des méthodes pour se dégager d'un homme qui fondrait sur lui selon une forme parfaite. À l'école, on le connaissait à présent. Quelques-uns des autres élèves sérieux, des domestiques qui s'entraînaient pour devenir gardes, voulaient qu'il vienne boire avec eux ensuite, et il arrivait à court d'excuses. Non qu'il dédaignât leur compagnie. En fait, il les aimait bien, pour prendre au sérieux la même chose que lui. Mais s'il avait l'assurance de passer pour un roturier durant la rigueur des leçons, il ne savait pas s'il réussirait toujours en compagnie. Il apprenait à parler plus vite en leur présence et avait d'ailleurs récemment choqué son domestique en lançant une demande saccadée pour que ses bottes soient nettoyées et que ça saute. Michael s'amusait à repérer en ville des boutiques où il pourrait prétendre travailler, à manipuler les pierres précieuses, et à imaginer qu'il passait ses journées à les sélectionner pour des clients plutôt que pour lui. Mais jamais cela ne lui paraissait réel. Michael ne fut pas absolument surpris lorsque le maître l'attira à l'écart après son cours pour lui parler. Il avait demandé une leçon hebdomadaire supplémentaire, mais jusqu'ici, Appletorp s'était borné à hocher la tête distraitement et à répondre qu'il verrait. Maintenant, Michael proposait de sortir avec lui et de l'inviter à dîner pour qu'il puisse en discuter confortablement. « Non, » répondit le maître, le regard tourné vers une haute fenêtre au bout de la salle. « Je crois que nous pouvons parler ici. » Il le conduisit jusqu'à une petite pièce initialement conçue pour servir de sellerie à l'ancienne écurie. À présent, elle s'encombrait de gants, de couteaux à lancer, de morceaux de toile et d'autres rebuts de l'académie. Ils s'assirent sur deux cibles dont le rembourrage s'échappait lentement. Appletorp se frotta le menton du poing, puis il regarda Michael. « Vous voulez devenir bretteur, dit-il. « répondit Michael, une habitude dont l'éducation était censée l'avoir débarrassée depuis un âge tendre. Il n'y avait aucun doute sur ce dont parlait le maître, des hommes qui gagnaient leur vie par des combats à mort et qui devaient vaincre à chaque fois. Là aussi...
Comme j'adore ce passage, et c'est beau en français.
C'est bien traduit.
Ouais. C'est bien traduit, vraiment?
Oui, je crois. Vraiment, c'est un bon traducteur, a priori, donc vous avez de la chance. Pourquoi, là aussi, on voit la très belle couverture, d'ailleurs, je trouve, du livre, où on voit la neige, le personnage, on ne voit que le bas du corps, pour ceux qui peuvent la voir, et l'épée tachée de sang. Je n'ai pas retrouvé le passage, j'avais perdu ma petite feuille, mais je me souviens d'un passage du livre où il a tué donc un de ses adversaires, et vous décrivez non pas l'acte, la violence elle-même, mais le sang sur la neige. Ça, c'est une image qui m'a beaucoup frappé. Et il n'y a pas de complaisance dans votre violence. Il n'y a pas de plaisir à la décrire. Ça fait partie de la vie.
Ouais. C'était un peu dur pour écrire en le voix d'un bretteur, un tueur, un assassin. Et pour le rendre en même temps, comme vous disiez, quelqu'un de sympa et un vrai tueur. Alors, j'ai essayé de prendre sa vue pour ça. C'est très clinique, sa point de vue. C'est un peu clinical, on dirait.
Clinique.
C'est un peu clinique. Et c'est comme ça que je l'ai écrit. C'est Alec qui aime beaucoup la sensualité du sang. Et de tuer. Mais on ne voit pas souvent... On voit son réaction, mais pas les pensées de lui-même. Et c'est peut-être mieux comme ça.
Et puis
c'est un peu bizarre.
Et à l'inverse, c'est le même personnage qui va protéger quelqu'un aussi, et pas pour de l'argent cette fois-ci. Donc c'est un personnage complexe.
Oui.
C'est ça qui vous intéresse dans le roman, Helen Kushner, la complexité?
Oui, toujours. La complexité de la vie humaine, la complexité des personnages, oui, toujours. Qu'est-ce que c'est qu'être humain? C'est ça qui m'intéresse.
Si on résumait à la pointe de l'épée, un roman d'aventure et la complexité et la passion de raconter, ça vous va?
Oui, et la passion de vivre dans mes œuvres même. C'est que je voulais bien être comédienne quand j'étais jeune. Et je n'avais pas le talent et je n'avais pas le visage, mais aux États-Unis. Ben. Puis, quand j'écris un roman, je deviens tous les caractères, aussi le directeur, aussi ceux qui font les costumes, tout ça. Alors, ça me donne du plaisir. Et parfois, en écrivant, c'est très dur, c'est incroyablement affreux. Mais parfois, c'est quelque chose de célestial et on s'amuse bien et on entre dans l'histoire de soi-même. Et ça m'a plu beaucoup.
Eh bien, voilà, on va devoir céder la place, mais on a déjà un petit peu commencé à découvrir Helen Kushner. Alors, deux occasions pour vous maintenant de la découvrir. Si vous aimez parfois les livres qui se dégustent, où on se laisse prendre lentement par le récit, Thomas Rimmer, un très beau roman qui d'ailleurs a eu deux prix très importants de fantasy aux États-Unis, il faut le signaler. Et puis... peut-être plus grand public, tout aussi brillant, de l'action, de la passion, de l'aventure et du style, à la pointe de l'épée, toujours d'Hélène Kushner. Merci Hélène.
Merci à vous beaucoup. Ça me donnait tellement de plaisir d'écouter votre voix en lisant ces livres. Et il faut dire que ça, c'est très joli, mais encore mieux, c'est l'édition Kalman Levy. Avec l'illustration originale. Ah oui, voilà. Et j'en ai aussi chez moi, dans le grand stade des bouquins. Alors, on se verrait là, peut-être. Merci.
Et bien sûr, si vous voulez vous faire dédicacer un livre, Helen Kushner va à la bulle du livre. Merci.